30 minutes chrono, l'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors voilà, 30 minutes chrono, une nouvelle émission, c'est la première de cette nouvelle année 2014. Le sommaire, la chronique de la Babale Carrée reviendra cette semaine sur l'arbitrage français du sport le plus médiatique de notre coin de planète, qui décide de la hiérarchie du corps arbitral dans le foot. Combien cela gagne-t-il un arbitre de L1 ? La fédération est en pleine restructuration au sujet de l'arbitrage. Nous essaierons d'y voir un peu plus clair et parlerons aussi de l'étrange mise en écart de Saïd Njimi. Nos arbitres ont-ils le niveau international ? Et y en aura-t-il pour la prochaine Coupe du Monde au Brésil ? Ensuite, nous aurons un invité. Alors, notre invité pour 30 minutes chrono, c'est Christophe Garnier. Bonjour.
Bonjour.
Ou bonsoir, puisque cette émission est diffusée vers 19h30 et 20h tous les samedis.
Donc, bonsoir.
Bonsoir, monsieur Garnier. Alors, vous êtes le président du comité Sport Tambourin Héros.
Exactement.
Voilà. Alors, j'avais l'occasion déjà d'avoir reçu le 9 novembre dernier Marc Tourbeau, qui est le président du club de Montpellier. Je ne me trompe pas.
C'était c'est cela, ça, oui. Hein. C'est le président du club de Montpellier. Il est aussi vice-président du comité Sport Tambourin Héros.
Voilà. Alors, nous aurons une conversation, bien sûr, avec vous sur ce sport qui est à la fois un sport loisir, mais aussi un sport de très haut niveau.
Oui. On en parlera à plusieurs niveaux, au niveau international.
Oui,
aussi.
Voilà.
On aura l'occasion d'en parler.
On en parlera tout à l'heure avec nos internationaux qui sont de retour d'Italie il n'y a pas longtemps pour les championnats du monde en salle. Et 30 minutes attendra des commentaires de votre part sur tout ce sport. Et puis pour terminer, on conclura par des résultats. Alors puisque vous êtes là, j'en profiterai. On va parler tambourin pour les résultats. Hein. Résultats et puis les perspectives, les objectifs. Enfin, on fera ça en fin d'émission. La Babale Carrée. La Coupe du Monde 2014 arrive à grands pas, qui plus est dans le pays où le ballon rond est roi. Cependant, si notre équipe nationale a réussi à se qualifier par la petite porte barrage pour cet événement planétaire, qu'en est-il de nos arbitres ? La Fédération française de football tente depuis quelque temps de mettre de l'ordre chez nos arbitres, censés être les garants du jeu. Mais rien n'est sûr et l'on va savoir bientôt si la Coupe du Monde de la Samba se fera sans un sifflet tricolore qui devait être, s'il est retenu, Stéphane Lannoy et ses deux assesseurs, l'arbitrage étant composé d'un trio. Sinon, une Coupe du Monde sans arbitre gaulois, ce serait un camouflet et une quasi-première depuis 1950. En attendant le verdict de la FIFA, essayons d'y voir un peu plus clair dans la jungle arbitrale. Pendant longtemps, l'arbitrage était une sorte d'état dans l'état, déjà un peu obscur de la gouvernance du football français. Noël Le Graët, pendant la campagne qui l'a conduit à son élection à la tête de la 3F, avait promis de mettre un terme à l'arbitraire pour les arbitres. Longtemps, Marc Batta et Bernard Laïec ont fait ce qu'ils voulaient pour le volet arbitrage de la fédération. Depuis, un coup de balai a bien été donné avec l'arrivée d'Alain Sarr et Pascal Garibian pour essayer de mettre de l'ordre et de l'harmonie chez nos arbitres. Les nouveaux ont décidé de rajeunir les cadres et de ne pas opposer les pros avec les amateurs. Vaste programme et bon courage. Pourtant, il reste des zones d'ombre chez les hommes en noir. Leur rémunération, elle est claire. 2 538 € bruts, la pige de L1. Plus, bien sûr, leur salaire. Le mensuel pour un arbitre de L1, c'est 3 000 €. not bad, comme on dit du côté de Manchester ou de Liverpool. Mais hors leur rémunération, il existe un climat de suspicion dès que l'on aborde le problème de l'arbitre. Il est vrai que certaines prestations pour le moins peu convaincantes font que nos arbitres bleu-blanc-rouge ne sont pas très bien notés par les instances internationales. On leur reproche souvent leur manque de discernement, une faculté à penser qu'ils font partie du spectacle, alors qu'un bon arbitre est toujours celui que l'on ne voit pas du tout. Si vous suivez nos championnats professionnels, certains arbitres de nos ligues sont parfois inénarrables. Peut-être ont-ils été trop formatés par trop de directives inapplicables. Il suffit de suivre un match de l'autre côté de la Manche pour comprendre que l'esprit vaut toujours mieux que la lettre. Le règlement n'est qu'un cadre, la diplomatie, le flair et le bon sens font souvent un match formidable. La rigidité engendre souvent l'ennui, voire l'injustice. Pour conclure cette chronique de la Babale Carrée, j'aimerais remercier le quotidien L'Équipe, daté du 28 décembre, et l'hebdomadaire France Football du 7 janvier. Parce que dans certaines informations qui sont contenues dans cette chronique, c'était dans des articles qui y sont parus. Cet arbitre international de 40 ans, maintenant, je vais vous en parler. Il s'appelle, on pourrait même appeler ça, l'affaire Saïd Njimi. Cet arbitre international, donc, va devoir rendre son écussion. Pourtant, il faisait la quasi-unanimité auprès des joueurs de L1 pour vanter son esprit d'ouverture, son charisme et son sens aigu du dialogue. Mais Marc Batta ne le voyait pas de cet œil et l'avait évincé de la prestigieuse liste des 10 candidats français pour obtenir le Graal de l'instance européenne, l'UEFA. Vous savez, l'UEFA de Michel Platini national. Batin évincé de la 3F officie désormais donc à l'UEFA et malgré l'insistance de nombreux acteurs du monde du foot, il fait toujours obstacle à inclure Njimi dans le cénacle des arbitres. Officiellement pour raison qu'il est presque trop vieux, mais la limite de l'arbitrage c'est 45 ans et non pas 40. Alors il s'agit probablement d'un règlement de compte à hockey référé. Car Saïd Njimi avait mis les pieds dans la bonne soupe servie par Batta et ses potes du temps de leur gloire de la 3F. Cet arbitre avait le défaut principal d'être issu de l'immigration et en plus, il était président du syndicat des arbitres du football élite. Un scandale qui ne pouvait faire de lui qu'un pestiféré aux yeux des arbitres bien pensants qui font encore la pluie et le mauvais temps pour nos arbitres. Allez, un bon coup de sifflet, ça ne serait pas trop.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire is returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel the grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere, I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you.
Aujourd'hui, ce sera l'invité. Alors, on a un invité, donc je l'ai déjà présenté, mais on va le représenter. Alors, monsieur Garnier, représentez-vous vous-même.
Donc, Christophe Garnier, président du comité Sport Tambourin Hérault, qui fait la promotion du sport tambourin dans l'Hérault et qui espère que le sport tambourin va continuer à se développer au-delà des frontières héraultaises.
Eh bien, c'est très bien. Alors, on avait déjà reçu, comme je disais tout à l'heure, un de vos collègues, on peut dire, un président de club de Montpellier, Marc Tourbeau, qui nous avait expliqué déjà les origines du sport. Alors, on ne va pas trop revenir là-dessus, mais on va parler avec vous plutôt des perspectives, de l'avenir, des résultats, de ce qui s'est passé. D'abord, une petite question, puisque j'ai fait une chronique sur le foot. Un arbitre de tambourin, ça ne gagne pas 2500 euros par prestation.
Non, et voilà, les arbitres sont bénévoles pour la plupart, sauf au niveau du national, où les arbitres sont rémunérés, mais absolument rien à voir avec les rémunérations que vous avez citées pour la L1 de football.
Ah oui, là, ça fait rêver, hein, 2538 euros la pige, c'est pas mal. Bon, revenons à votre sport. C'est un sport d'abord emblématique, c'est pour ça que je suis ravi de vous recevoir, parce que l'Hérault, c'est quand même beaucoup le tambourin. Alors j'espère que beaucoup de gens qui sont des nouveaux héraultais, qui ne connaissent pas ce sport, iront vous voir. Où est-ce qu'on peut vous voir ?
Toute l'année, il y a du tambourin. Il y a trois disciplines en tambourin. Il y a la fameuse discipline originelle, on va dire, qui se joue sur des terrains de 80 mètres de long par 20 mètres de large, qui se joue en extérieur, de mars à fin septembre. Donc c'est une discipline qui est pratiquée sur beaucoup de villages extérieurs à Montpellier. On retrouve Gignac, Vendémian, Metz, du côté de Poussan aussi. Et à Montpellier, on peut retrouver du tambourin au Parc Montcalm. Il y a un club de tambourin montpelliérain que Marc Tourbeau présenté. Et sur le Parc Montcalm, il y a un terrain de tambourin et tous les week-ends, vous pouvez voir du tambourin.
Alors,
en extérieur.
Ça, c'est très bien pour les Montpelliérains, parce que c'est un lieu de balade de par Montcalm.
Exactement.
Donc, en même temps que vous allez vous promener, si vous entendez des bruits un peu, tiens, un peu comme... on va en faire un bruit, un peu comme ça. Eh bien, ça veut dire que vous n'êtes pas loin d'une équipe qui joue au tambourin. Alors, le tambourin, c'est plus fort que ce que je viens de faire, hein, parce que la balle, elle va très vite, n'est-ce pas,
hein? Oui, la balle va très vite. Alors, donc là, on parle de la version extérieure. Dans la version extérieure, c'est une balle qui est spécifique, qui est en caoutchouc dur et qui, elle, va facilement au-delà des 200 km/h. On parle souvent au tennis, les meilleurs tennismen peuvent servir à ces vitesses-là. Mais en tambourin, même à des niveaux de jeu pas très élevés, la balle va à cette vitesse-là. Elle doit d'ailleurs parcourir au moins 80 mètres pour traverser le terrain. Donc on est vraiment sur une balle qui va très vite au départ et qui perd peu de vitesse sur sa en parcours.
Et bien sûr, celui qui reçoit la balle va se servir de la vitesse de la balle pour la renvoyer. Donc ça prend un peu de vitesse encore.
Exactement. Il y a une technique qui consiste en particulier à jouer à la volée. Au rebond, bien sûr, la balle aura perdu de la vitesse et de l'énergie. Par contre, les meilleurs joueurs jouent les balles à la volée et donc ils réutilisent de cette manière-là l'énergie donnée par l'adversaire à la balle. Et donc, bien sûr, les vitesses sont toujours impressionnantes.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment pas du tout, ça vaut vraiment la peine d'aller voir, ne serait-ce que par curiosité, cette balle qui traverse ce grand terrain à toute vitesse. Mais on peut aussi voir le tambourin en salle. Et ça, c'est relativement nouveau
c'est, ça fait une trentaine d'années. Voilà. Ça apparaît dans les années 80. Voilà, c'est relativement nouveau. Mmh. Voilà, c'est une version qui apparaît dans les années 80 pour pallier au simple fait que la version extérieure ne se joue qu'au printemps et à l'été. Et donc, arrivé fin septembre, début octobre, les joueurs se retrouvaient un petit peu dépourvus quand la bise était venue.
Voilà.
Et ils ont décidé de jouer en salle. Ils ont inventé une version à trois joueurs avec une balle beaucoup plus souple qui une balle type tennis basse pression.
D'accord.
Et qui permet de jouer en salle dans des gymnases qui sont de la taille qui peuvent accueillir des terrains de handball ou de basket.
Voilà,
avec des règles spécifiques. Ça a apporté une... Bien sûr, on utilise toujours des tambourins, mais toute une série de règles différentes. Et c'est devenu, ça s'est développé, au point de pouvoir avoir maintenant une quinzaine de nations qui pratiquent et d'avoir eu la première Coupe du Monde il y a moins d'un mois du côté de l'Italie.
Alors voilà, les Italiens ont la réputation d'être les champions de ce sport, avec les Français on peut dire, mais les Italiens ont encore été champions du monde, je crois, cette fois-ci en salle. Hein.
Oui, en salle. Alors bien sûr, les Français sont relativement facilement sortis des poules. Il y avait des poules avec 15 pays représentés, dont la Russie, Cuba, le Brésil,
c'est ce que j'allais vous dire. Il ne faut pas s'imaginer que le tambourin, c'est uniquement l'Hérault et puis une petite partie d'Italie dans le Piémont. Hein. C'est beaucoup plus loin que ça. Hein.
Et donc là, c'est au niveau international, ça se développe. Et au niveau français aussi, il n'y a pas que l'Hérault qui joue au tambourin. Mais ça, on y reviendra quand on parlera du championnat de France en salle. Et donc, lors des championnats du monde, les Français sont relativement facilement sortis des poules. Ils ont eu quelques difficultés en demi-finale contre le Brésil. Les Italiens, eux, donc là, je parle des messieurs, se sont assez facilement débarrassés des Espagnols en demi-finale. Et par contre, les Français ont subi la loi des Italiens en finale. Donc, les Français sont vice-champions du monde en salle. Les Italiens sont champions du monde. Et la même chose du côté des Italiennes et des Françaises. Les Françaises aussi, elles, sont assez facilement sorties des poules. Elles ont battu la Catalogne en demi-finale, tandis que les Italiennes, elles, par contre, ont eu beaucoup de mal, beaucoup plus de mal en tout cas, à se débarrasser des Hongroises en demi-finale.
Des pays de l'Est, là aussi.
Exactement,
des pays de l'Est. Le Brésil, Cuba, vous m'avez dit, ça fait quand même du monde qui joue au tambour. Hein.
Ça fait du monde, oui, bien sûr. C'est un sport qui est... Voilà, la plus grosse difficulté de tambourin, c'est que les gens parviennent à le voir une première fois. Et les gens qui l'ont vu une première fois sont souvent séduits et ont envie d'essayer, de jouer, etc. Au point que voilà, ces nations-là sont devenues, des gens sont devenus amoureux du tambourin et se mettent à le pratiquer dans leur pays.
Parce que à l'origine, c'est quand même un sport de par ici, l'origine du tambourin.
Oui, tout à fait. Alors, il y a deux origines. Les Italiens disent que c'est eux qui l'ont inventé.
Bien sûr. Bien sûr, c'est normal.
Bien sûr, voilà, les Italiens, il faut tout le temps qu'ils ramènent les choses à eux. Donc, les Italiens disent que c'est eux qui l'ont inventé, que ça remonterait jusque même à la Rome antique et que les soldats romains, déjà, les centurions romains, déjà, ils le pratiquaient.
Bon, c'est bien connu, les centurions romains avec leurs tambourins, ils tapaient
exactement.
Dans le tambourin, c'est bien connu.
Et du côté français, on reste plus modeste. Vous savez, les Français, on est beaucoup plus modestes que les Italiens. Au niveau des Français, on estime que le sport est vraiment apparu sous sa forme proche de la forme actuelle à Metz à la fin du 19e siècle.
Voilà, c'est donc Metz le berceau héraulté du tambourin, on peut dire. Et puis, on a cité quelques villages là, qui participaient donc, à ce sport de tambourin. Moi, j'en connais un autre parce que j'y habite, Jacou.
Jacou.
Alors, oui. Jacou, c'est tout près de Montpellier, c'est la proche banlieue montpelliéraine. Et dans le bel espace qu'on a, qui s'appelle le parc Bocaux, l'équipe de tambourin joue. Et là aussi, on peut les voir pendant l'été. Bien sûr, enfin, pas
voilà. Vous voulez voir jouer en extérieur et Jacou évolue aussi en salle. Et d'ailleurs, les Jacoumardes, les féminines, sont au coude à coude avec les Poussanaises. Là, sur la fin de championnat, il reste encore une journée. Et chance, on va dire, la dernière journée opposera Jacou à Poussan. Et pour l'instant, Poussan est absolument invaincu en championnat. Tandis que Jacou n'a perdu qu'un match. Les Jacoumardes n'ont perdu que le match qui les opposait à Poussan
lors de l'aller. Ah, le retour promet.
Et donc, le retour promet parce qu'en cas de victoire de Jacou, il faudra commencer à rentrer dans les décomptes de jeu gagné, balle perdue, goal average particulier, etc. Donc le championnat féminin n'est pas encore joué. Voilà. Et la place de championne de l'Hérault et bien sûr les places qui permettent d'accéder au championnat de France ne sont pas jouées entièrement.
Alors puisqu'on parle championnat de France, il va y avoir bientôt des championnats de France sur notre territoire.
Alors sur notre territoire, mais aussi ailleurs, parce qu'on voilà, on en vient à cette notion que le tambourin n'est pas pratiqué, le tambourin en salle n'est pas pratiqué que dans l'Hérault. On va retrouver un championnat de France, il y aura Narbonne, il y aura des équipes des Bouches-du-Rhône, des équipes du Nord et de l'Oise aussi.
De l'Oise et du Nord, ça c'est intéressant, ce qui prouverait qu'il y aurait que ce sport commencerait à se développer en dehors de son berceau.
Bien sûr.
Son berceau est relevé, je parle pour la France.
Voilà.
Donc, des gens du Nord qui jouent au tambourin.
Oui, depuis longtemps, ils jouent depuis longtemps. Et donc, maintenant, il y a Narbonne jouait depuis longtemps. Il y a une véritable tradition du tambourin du côté de l'Aude, du côté de Narbonne, qui n'est pas très connue ni reconnue. Mais en tout cas, il y a eu du tambourin il y a quelques décennies. Et le tambourin revient sur Narbonne, ce qui permet de créer un véritable championnat de France en trois étapes. Donc la première étape aura lieu dans le nord, à côté de Valenciennes, les 25 et 26 janvier. Ensuite, à Lunel, nous aurons la deuxième étape, les 15 et 16 février.
15 et 16 février, donc championnat de France en salle. Hein,
en salle, à Lunel.
D'accord.
Et la dernière étape aura lieu dans les Bouches-du-Rhône, le 1er et 2 mars. Et donc ces trois étapes-là permettront de déterminer
quelles équipes seront déclarées championnes de France, vice-championnes de France, etc.
Donc il y a toute une organisation très très importante quand même dans ce sport. C'est, les gens qui ne connaissent pas ont peut-être l'impression que c'est très confidentiel. Et en fait, quand on vous écoute, on se rend compte que c'est toute une organisation avec une fédération, avec des clubs, avec des licenciés. Vous avez une idée de à peu près combien de licenciés ça représente dans l'Hérault, hein?
Alors juste en termes d'organisation, on peut parler, donc il y a les comités départementaux, il y a des ligues régionales, donc ligue régionale Languedoc-Roussillon, ligue régionale de PACA. Il y a la fédération française, bien entendu, et il y a aussi une fédération internationale qui permet justement d'organiser les événements dont on vient de parler, le championnat du monde en salle, la coupe du monde en salle, la coupe du monde en extérieur qui a eu lieu il y a 2 ans. Et donc, en termes d'organisation, oui, ça prend de l'ampleur. Et au niveau des licenciés, dans l'Hérault, nous avons 1673 licenciés exactement.
Alors, on voit vous tenez à compte vos fiches, hein. 1673, donc c'est très loin d'être un petit sport.
Exactement.
1673, hein, ça fait du monde.
Hein. Ensuite, il faut que ça se développe un petit peu dans les autres départements. On est quand même sur une notion, voilà, la grosse majorité des joueurs sont dans l'Hérault. D'ailleurs, l'Hérault est le plus gros fournisseur de joueurs pour les équipes de France. Ensuite, dans les autres départements, on est sur des nombres beaucoup plus petits avec 1, 2, 3 clubs qui sont organisés.
Sans vouloir faire d'impair, est-ce que vous citez quelques joueurs de l'Hérault qui sont dans les équipes de France, joueurs ou joueuses?
Bien entendu. Eh bien, en salle, nous avons eu cette année, donc chez les filles, nous avons eu Marion Casani, qui évolue à Poussan et qui va certainement, qui est au coude à coude avec Jacou. À Jacou, vous avez Julie Dangean, qui était aussi en équipe de France cette année en salle en Italie. Du côté des garçons, vous avez à Florensac, vous avez Cédric Penas, qui lui évolue donc dans l'équipe de Florensac, qui va certainement, là c'est fait, par contre c'est joué dans le championnat masculin en salle, qui va être sacré champion de l'Hérault et pouvoir accéder au championnat de France. En deuxième, les deuxièmes qui sont juste derrière Florensac, ce sont Lunel. Et à Florensac, vous avez Frédéric Capello, qui lui aussi était sélectionné à l'équipe de France et qui a défendu les couleurs de la France en Italie cette année.
Donc, c'est ce que je disais dès le départ, c'est un sport loisir, mais c'est aussi un sport de très haut niveau avec nos internationaux. Donc, on est bien représentés dans l'Hérault. Si vous voulez bien, on va faire une petite pause musicale que vous avez choisie. Puis après, on se retrouve pour continuer à parler du sport tambourin.
Le lancer du CD.
Make history. Let's take it back and make it happen in my time machine.
Alors de retour dans les studios de Divergence, toujours avec le même invité, il s'est pas enfui, c'est toujours le même, c'est...
Christophe Garnier, voilà. Donc il faut que je me représente encore une fois, mais voilà. Bon.
Mais c'est très bien comme ça. Alors donc, on a parlé tambourin, on va continuer à en parler tambourin, mais avant, vous avez choisi votre petite pause musicale comme je le fais pour tous mes invités. Alors vous allez nous dire de quoi il s'agit et pourquoi un petit peu.
Mais j'avais choisi Rhinocéros depuis Cubicle parce que c'est leur chanson emblématique. Et c'est vrai que Rhinocéros, c'est un petit peu comme le sport tambourin. Ils sont originaires de l'Hérault, mais comme le sport tambourin, ils sont en train de se développer à l'étranger, ils sont connus partout dans le monde. Et puis musicalement aussi, c'est très proche du sport tambourin. Ça fait du bruit, c'est rapide et c'est furieux.
Ouais, ça ressemble donc un petit peu à votre sport. Alors encore en deux mots, ce qu'on l'a pas dit au début. Donc deux équipes quand on est à l'extérieur, c'est 5 joueurs, c'est ça ?
C'est ça, 5 contre 5.
Voilà. Les tambourins sont, j'en ai toujours avec moi. Donc c'est la taille réglementaire du tambourin.
Alors celui-ci, ça c'est un petit tambourin. Alors on est à la radio, c'est difficile de parler. Mais il y a deux tailles de tambourin. Voilà. Il y a une taille adulte qui fait 28 cm de diamètre et une taille jeune qui fait 26 cm de diamètre, avec des spécificités après de poids, de solidité des plastiques qui sont utilisés, parce que ce sont des tambourins maintenant réalisés avec des matières plastiques, des vinyles et des éléments modernes, on va dire.
À l'origine, c'était de la peau de...
C'était de la peau de chèvre tendue
de chèvre.
Sur du bois.
Voilà, c'était de chèvre sur le toit. Maintenant, évidemment...
Maintenant, on a arrêté d'embêter les chèvres.
Ouais, les pauvres chèvres, on leur découpe pas la peau pour faire des tambourins. On a des matières qui sont bien plus réactives.
Hein. Voilà, bien plus réactives et puis surtout beaucoup plus calibrables, dans le sens où en termes de tension, maintenant, les joueurs font très attention au type de tension, au poids du tambourin. Ça se joue en grammes, le poids du tambourin, en fonction du style de jeu qu'on veut avoir, même de la position sur le terrain. Et au niveau des toiles et de la tension aussi, les joueurs préfèrent certaines tensions en fonction de leur style de jeu et de ce qu'ils veulent faire.
Comme des tennismen, un peu, on peut dire ça, entre guillemets, hein, on est
très proche de ce que peuvent faire les tennismen en termes de raquettes, de tension de cordes, etc. Là, on est sur des tensions de toile et de poids de tambourin.
Alors, toujours pour les profanes, il y a un tambourin qui est beaucoup plus petit, c'est celui qui sert au service. Hein.
Alors, c'est pas vraiment un tambourin, on appelle ça un battoir.
Ah, voilà.
D'ailleurs, le service en tambourin, alors, le tambourin est originaire d'ici, il y a beaucoup de termes qui viennent de l'Occitan, et entre autres, on ne dit pas servir, on dit battre.
Battre,
et
oui.
Donc, on utilise un battoir, et quand on gagne le service, parce qu'au début du match, comme pour le foot, etc., il y a un toss qui permet de déterminer quelle équipe va commencer à servir.
Comme au tennis, là aussi.
Voilà, et on ne dit pas on a gagné le service, ou on prend le service, on prend la batterie. Donc, ce fameux battoir, pour en revenir là-dessus, c'est, oui, on va dire, ça ressemble à un petit tambourin. On va essayer de décrire à la radio aussi. C'est un petit tambourin qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre, mais qui est mis au bout d'une manche. Voilà, ça ressemble un petit peu à une raquette de tennis déformée, on va dire. Et ça permet uniquement au service d'envoyer la balle beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, et de lui donner de l'effet aussi.
Quelques résultats de nos surdoués valeureux de l'aglo multivitaminé.
Alors comme cette émission, vous savez, ça passe vite. Hein. Vous êtes d'accord avec moi,
ça ? Oui, ça passe vite. Oui.
Ah, on a l'impression que ça va avoir beaucoup de temps, mais une petite demi-heure de 30 minutes chrono, avec d'abord ma petite chronique qui dure aussi un certain temps, ça vous laisse une vingtaine de minutes avec les pauses musicales. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire pour conclure ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment nous informer sur...
Mais ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est aux gens, voilà, on peut en parler beaucoup du tambourin, mais l'essentiel, c'est d'en voir. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités pour en voir. On en a parlé au printemps, à l'été, dans les villages, sur Montpellier, au Parc Montcalm. En salle, les clubs jouent bien sûr en salle, dans les différentes salles de l'agglomération.
Les gymnases, en général.
Dans les gymnases, oui, souvent, c'est dans les gymnases. Les clubs eux-mêmes communiquent autour de ça sur Facebook. On communique aussi sur Facebook et sur les sites internet.
Si vous voulez en savoir plus, bien entendu. Rendez-vous sur les sites vôtre, hein, par exemple. J'y suis allé, c'est très bien fait, on a toutes les informations qu'on veut. Hein.
Voilà, vous tapez tambourin sport, vous tapez tambourin sport héros, vous allez trouver le site de la Fédération française, le site du comité départemental. Sur Facebook aussi, vous pouvez nous retrouver. Et Facebook, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment les informations en direct qui arrivent régulièrement, etc. Ouais. Parce que les joueurs eux-mêmes remplissent les informations, annoncent leur score, commentent leur score, etc. C'est très vivant.
C'est pas un sport de vieux, hein, c'est un sport de jeune, hein, le tambourin.
Oui, c'est un sport pour tout le monde. C'est-à-dire que ça a l'avantage, on en parle, pour les gens qui viendraient dans l'Hérault et qui découvriraient ce sport-là, c'est vraiment un sport. Ça a l'avantage d'être dynamique et d'être un sport jeune, mais il a aussi l'avantage, bien sûr, d'avoir été pratiqué depuis de nombreuses années.
On peut jouer avec des vétérans, je suppose.
Voilà, et les vétérans peuvent le jouer. Et puis les gens qui ne sont plus joueurs viennent encore autour des terrains et apprécient de regarder. Dans les villages et même sur Montpellier, c'est vraiment un élément de cohésion sociale entre les jeunes, les personnes plus âgées et les nouveaux arrivants et les gens qui étaient déjà là depuis plusieurs générations.
Et c'est parfois même un sport roi, parce que j'ai eu la chance aussi d'habiter un autre village qui s'appelle Vendémian. Vous voyez, j'ai habité dans des endroits où on pratique le tambourin. Et là, c'est il y a longtemps, ça, il y a plus d'une vingtaine d'années. Et je me souviens que c'était le sport numéro un. À Vendémian, le tambourin.
Oui, et c'est
devant
toujours,
le foot.
C'est toujours le sport numéro un.
C'est incroyable.
À Vendémian, les enfants sortent de l'école, ils sont directement
c'est
sur
incroyable.
Le terrain de tambourin.
Je venais d'une autre région, j'ai été surpris. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce sport? Et j'ai donc apprécié dès ces années-là ce sport tambourin à Vendémian avec des grands champions. Il y avait des gens qui étaient très, très forts.
Oui, les équipes de Vendémian en général sont très bien classées, très difficiles à battre. Voilà, c'est un club qui est particulièrement. Qui a des équipes particulièrement relevées dans toutes les catégories. Et quand on réussit à battre Vendémian,
on n'est pas loin d'être les meilleurs.
On est quand même bon, voilà.
Alors, pour conclure, donc peut-être quelques résultats. On a déjà parlé des championnats. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment insister ou nous dire de ne pas oublier d'aller voir?
Mais peut-être la date la plus importante à retenir, c'est le 15 et 16 février à Lunel. Il y a les championnats de France qui auront lieu à Lunel. Ça va se passer sur deux journées avec beaucoup de rencontres, etc. Donc il est tout à fait possible d'arriver, de voir une paire de rencontres, d'assister, d'écouter un petit peu les commentaires qui se font dans les gradins, parce que c'est toujours au moins aussi intéressant que de voir des fois ce qui se passe sur le terrain.
Et puis j'espère que ce n'est pas comme au foot, on ne s'engueule pas quand même de trop.
Non, au contraire. Alors là, voilà, si vous voulez avoir une bonne ambiance entre joueurs, entre supporters, il y a de l'enjeu. Les gens vivent quand même la rencontre, etc.
C'est un sport.
Par contre, voilà, on se retrouve plutôt dans un type de public proche de ce qu'on peut appeler un type de public type rugby, avec quand même des supporters qui sont capables de s'asseoir les uns à côté des autres sans avoir à se jeter des bouteilles ou des objets.
C'est super. C'est donc aussi un sport qu'on peut aller voir en famille. J'espère que cette émission vous a satisfait et donc on se retrouvera samedi prochain pour un autre 30 minutes chrono. Mais nous n'oublierons pas de tenir régulièrement informés nos auditeurs sur l'activité du tambourin, parce que maintenant on commence à vous connaître.
J'espère bien.
Allez, au revoir.
Merci beaucoup
fois.
En tout cas, et merci à Divergence FM.
L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono.